Avant de commencer, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer la vérité de ta parole pour que nous comprenions la profondeur de ta sagesse et afin que nous appliquions cette vérité à notre propre vie. Au nom de Jésus. Amen. J'aime me promener à Lyon. Il y a toujours des choses intéressantes à voir, n'est-ce pas? L'architecture, les magasins, les gens différents, les routes et les passages tantôt bien fréquentés et tantôt pas très connus. Parce que j'habite à l'extrémité nord de la Croix-Rousse, j'aime bien descendre la pente jusqu'à l'hôtel de ville et ensuite remonter par un autre chemin. Peut-être vous connaissez ce quartier, le Croix-Rousse. Ce quartier historique et super. Mais il y a quelque chose d'autre que je remarque à chaque fois que je traverse la ville à pied. Je suis frappé par la diversité religieuse. Une fois sorti de mon appartement, je marche vers le sud et voilà que je vois un bâtiment avec un petit panneau qui dit « Monsieur un tel astrologue ». Je continue et de l'autre côté de la rue, j'en vois un autre. Ce n'est pas très étonnant ou choquant. Selon les statistiques, 25% de la population en France consulte des médiums et des astrologues. Mais je continue ma promenade dans une rue pittoresque et juste devant moi, je vois un panneau qui dit « Centre de méditation zen ». Je tourne à droite et 20 mètres plus loin, je me retrouve devant une façade qui porte les mots « Salle du royaume des témoins de Jéhovah ». Je prends à gauche et voilà un centre d'études d'astrologie. Je continue et vers le bas de la pente et je passe devant une salle de prière pour les musulmans. Et peu après, devant un centre hindou de Siddha Yoga. Et moins de 3 minutes plus tard, je vois l'église de Scientologie. Je continue et finalement, j'arrive à la place des terreaux. Quelle aventure! Quelle aventure dans la Croix-Rousse, ici à Lyon. Notre ville est riche en enseignements spirituels. Il y a un gourou à chaque coin de rue. Si vous avez des questions d'ordre spirituel, ce n'est pas très difficile de trouver un spécialiste, quel qu'il soit. Alors, pourquoi mettre votre confiance en Jésus? Pourquoi croire à son enseignement? En quoi est-ce qu'il est différent de tous les autres enseignants spirituels? Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'il dit? Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de messages dans l'évangile de Jean. Et nous allons étudier le chapitre 7 qui parle de Jésus en tant qu'enseignant divin. Dans Jean chapitre 7, la fête des huttes approche et Jésus va à Jérusalem pour enseigner dans le temple. C'est la dernière année de la vie de Jésus. Il fait face à beaucoup d'opposition de la part des autorités juives. Beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Mais malgré tout ça, Jésus va au temple et continue de proclamer son message. Nous allons donc commencer notre lecture aujourd'hui avec Jean chapitre 7, verset 14, et nous allons lire jusqu'au verset 18. Jean chapitre 7, 14 à 18. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il l'Écriture, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles vienne de lui-même, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Alors, j'ai trois choses à dire d'après ce texte à propos de l'enseignement de Jésus. D'abord, l'enseignement de Jésus vient de Dieu le Père. Ça vient de Dieu le Père. Ensuite, l'enseignement de Jésus est la vérité. Et finalement, l'enseignement de Jésus honore Dieu le Père. On commence donc avec notre premier point. Jésus est en train d'enseigner dans le temple et les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas suivi d'études formelles. Il n'était pas comme les maîtres de la loi ou les pharisiens qui ont passé presque toute leur vie en présence d'un enseignant. Ils ont mémorisé la loi juive, ils ont mémorisé les psaumes, ils ont mémorisé la parole des prophètes. Ce sont des experts qui ont reçu tout l'enseignement nécessaire afin de bien interpréter et de bien appliquer la Bible. Quand Jésus de Nazareth arrive et commence à enseigner avec autorité et manifestement une grande expertise, les gens réagissent. Il n'est pas fait d'études. Il n'est pas qualifié. Et pourtant, il comprend mieux les Écritures que tous les autres. Il enseigne comme quelqu'un qui a reçu ses idées directement de Dieu. Ceux qui écoutaient Jésus se sont probablement posé la question, mais d'où vient cette sagesse extraordinaire? Dans la tradition rabbinique, la tradition elle-même était extrêmement importante. Il n'y avait pas beaucoup d'idées très originales. Les idées étaient transmises d'un rabbin à l'autre, de génération en génération. Le fait d'enseigner sans se référer à la tradition rabbinique ou sans se référer à un autre rabbin était considéré comme arrogant. L'idée n'était pas de créer une tradition indépendante, mais de préserver ce qui avait déjà été développé. Mais en ce qui concerne Jésus, son enseignement ne venait pas d'une tradition humaine, mais de celui qu'il avait envoyé, Dieu lui-même. Bien sûr, il est probable que tous les prophètes d'Israël avaient déclaré, eux aussi, que leur enseignement venait de Dieu. Leur travail, en effet, était d'annoncer ce que Dieu leur disait d'annoncer. Dans un sens, leur message venait aussi de celui qui les avait envoyés. Mais l'enseignement de Jésus a quelque chose de plus. Nous ne devons pas oublier que Jésus est le Fils unique de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. L'enseignement de Jésus est logiquement toujours identique à l'enseignement de Dieu. Jésus obéit parfaitement à son Père. Et comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 5 il y a quelques mois, Jésus fait tout ce que le Père fait. L'origine de son enseignement, c'est le Dieu éternel, le Dieu infiniment sage et tout-puissant. En tant qu'homme, Jésus peut dire « Mon enseignement provient de Dieu ». Et en tant que Dieu, Jésus peut dire « J'enseigne sous l'autorité du Père ». Dans les deux cas, le message de Jésus est un message divin. La source de cet enseignement est Dieu. Dans la vie, si on veut obtenir la bonne réponse, il faut consulter le bon expert, n'est-ce pas? Il faut trouver le bon enseignement. L'année dernière, j'ai eu un problème avec le ventilateur de ma voiture. Et donc, ça chauffait très vite. J'avais besoin de la bonne réponse à ce problème. Donc, sans hésitation, qui est-ce que j'ai appelé? Un restaurant de pizza? Mon médecin? Euro Disney? Non, j'ai appelé mon garagiste. J'avais besoin du bon enseignement. L'enseignement du spécialiste. Il me fallait la bonne réponse au problème. Si on cherche la bonne information et la bonne connaissance concernant les questions importantes de la vie, il faut qu'on trouve la bonne source d'information et de connaissance. Il faut consulter le spécialiste. Dieu est la source de bon enseignement en ce qui concerne les vérités spirituelles. Un enseignement précis et juste sur le sujet de Dieu ne peut venir que d'une source, Dieu. C'est logique. Ce que Jésus est en train de dire dans ce texte, c'est que son enseignement n'est pas juste une parole d'homme, mais c'est un enseignement qui vient de Dieu. Une deuxième chose qui est importante à noter, c'est le fait que l'enseignement de Jésus est vrai. Au verset 18, Jésus se compare à un homme de la vérité. Il dit plus tard, au verset 28, que celui qu'il a envoyé est vrai, lui aussi. Ce n'est pas très étonnant. Si l'enseignement de Jésus vient de Dieu, cet enseignement est vrai. C'est un enseignement qui provient de la source même de la vérité. Dans les versets 17 et 18, Jésus dit deux choses à propos de la vérité. Premièrement, et comme nous l'avons déjà vu, l'enseignement de Jésus est vrai. C'est vrai. Mais deuxièmement, Jésus suggère que ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu vont aussi chercher à connaître la volonté à travers ce que Jésus dit. La volonté de Dieu est de reconnaître le caractère véridique de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Pour découvrir la volonté de Dieu, il nous faut être complètement attachés à la vérité de l'enseignement de Jésus, parce que la vérité est la volonté de Dieu. Le texte ne dit pas « jugez Dieu et décidez s'il est vrai ». Le texte dit plutôt, et je cite saint Augustin ici, « croyez Dieu et votre récompense sera la connaissance ». Mais en même temps, Dieu atteste la vérité de Jésus encore et encore. L'enseignement de Jésus est la vérité parce que cet enseignement vient de Dieu, le Père. Ce n'est pas un enseignement qui est en proie à l'erreur. Ce n'est pas en proie à la fausseté. Pour cette raison, Jésus nous demande de nous fier à l'enseignement qui vient de Dieu et non pas à l'enseignement qui vient des hommes. Une vraie prophétie ou un vrai enseignement doit venir de Dieu qui est la source de la vérité, comme j'ai déjà dit. Peut-être vous avez entendu récemment qu'un pasteur aux États-Unis avait prédit la fin du monde. Harold Campin a découvert que si on multipliait trois chiffres saints dans la Bible, 5, 7 et 17, et je ne sais pas pourquoi il a choisi ces trois chiffres, mais si on multipliait trois chiffres saints dans la Bible deux fois et qu'on ajoutait au total le jour de la crucifixion de Jésus, cela voulait dire que le monde allait prendre fin le 21 mai 2011, à 18h. À ce moment précis, Dieu était censé revenir pour sauver les 2% de la population du monde qui lui était resté fidèle. Mais malheureusement, le reste de la population devait être jeté en enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé le 21 mai? Rien. Rien. Nous sommes encore là. Des milliers de gens ont été trompés par ce prétendu pasteur. Il a prononcé une soi-disant vérité biblique qui n'était pas une vérité biblique et qui ne provenait pas de Dieu. En tant que chrétien, Jésus nous demande d'obéir à la vérité. Nous devons devenir des étudiants de la vérité par le moyen de l'enseignement qui provient de Dieu. C'est comme ça que nous grandissons dans notre connaissance de Jésus et dans notre foi en lui. Troisièmement et dernièrement, l'enseignement de Jésus honore Dieu le Père. Comme Jésus l'a déjà dit à plusieurs reprises, son désir était de faire la volonté de Dieu qu'il avait envoyée. Jésus n'agit pas selon sa propre programme, ni pour des raisons proprement personnelles. Cela est évident quand on regarde le début du chapitre 7. Les frères de Jésus, qui n'ont pas encore cru, lui ont dit « Va à Jérusalem et manifeste-toi au monde. D'après leur propre raisonnement, c'était logique que Jésus ait accompli quelques miracles afin de gagner un peu plus de popularité. Mais Jésus a répondu au verset 6 à 8 que son but n'était pas de satisfaire son propre programme. Son but n'était pas sa propre gloire. Il n'avait pas pour but de devenir plus populaire. Son but était la gloire du Père et l'obéissance au Père. Son attachement à la vérité et à l'obéissance est certainement évident quand on regarde les discours et les dialogues de Jésus. Son enseignement n'était pas toujours bien reçu. Comme on l'a vu en chapitre 3 de l'Évangile de Jean, Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Comme on l'a vu au chapitre 4, Jésus a repris la femme pécheresse. Il a dénoncé le péché et l'incrédulité. Comme on l'a vu au chapitre 6, Jésus a donné un enseignement difficile. Il a dit qu'il était le pain de vie. Et que celui qui voulait obtenir la vie éternelle devait manger sa chair. À cause de tout cela, beaucoup de gens l'ont abandonné. Mais le but de son enseignement était l'honneur du Père. Cette attitude était assez rare dans le monde antique. Je pense aux rhétoriciens et aux orateurs grecs qui avaient pour but un bel exposé plutôt qu'une vraie exposé. Peut-être vous avez entendu parler des sophistes, ces fameux philosophes grecs qui allaient de ville en ville pour vendre leur enseignement. Souvent, il niait l'existence d'une vérité objective. Pour eux, le but n'était pas de dire quelque chose de vrai. Après tout, la vérité était un mythe. Pour eux, toutes les idées n'étaient que des avis. Pour eux, le but était de parler de manière éloquente. Il valait donc mieux dire quelque chose de beau que quelque chose de vrai. Ils enseignaient pour leur propre gloire et pour leur propre réputation. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux écouter les hommes ou écouter Dieu? Est-ce qu'il vaut mieux écouter quelque chose de beau ou quelque chose de vrai? Est-ce qu'il vaut mieux écouter quelqu'un qui cherche sa propre gloire ou quelqu'un qui honore celui qui l'a envoyé? C'est pas toujours évident. En tant que chrétien, il y a deux choses importantes que nous pouvons apprendre à partir de ce que Jésus dit dans ce texte. Premièrement, Jésus est en train de dire dans ce texte que nous devons recevoir le bon enseignement. L'enseignement qui vient du bon maître, du bon gourou, en quelque sorte, du bon enseignant. Le monde nous offre beaucoup d'options spirituelles, beaucoup. Le monde nous offre beaucoup d'enseignements différents au sujet de Dieu, mais c'est Jésus seul qui nous offre un enseignement qui vient directement de Dieu. C'est Jésus seul qui nous offre un enseignement complètement vrai. Parce que nous pouvons nous fier à ce que Jésus dit, nous pouvons aussi annoncer son enseignement avec confiance et certitude. Ça, c'est notre deuxième application. Vous aurez des occasions d'enseigner sous une forme ou sous une autre. Vous enseignerez les principes bibliques, vous enseignerez l'Évangile, la croix de Jésus, sa mort, sa ressuscité, le centre de notre foi en fait. Peut-être à l'église, peut-être à l'école de dimanche, peut-être dans le cadre d'une étude biblique, peut-être dans votre foyer. Vous allez annoncer l'Évangile à un ami ou à quelqu'un dans la rue, peut-être. Mais quel enseignement allez-vous leur livrer? En tant qu'homme, Jésus a dit honnêtement, « Mon enseignement n'est pas de moi. » Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ville nous propose une grande diversité d'enseignants en matière de spiritualité. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous pouvons nous fier à l'enseignement de Jésus par-dessus tous les autres? La Bible dit oui. Est-ce que nous pouvons rester fidèles à l'enseignement du texte biblique? Jésus dit oui. En tant que chrétiens, nous adorons Dieu, la source du bon enseignement, la source de la vérité. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour la révélation vraie et juste en Jésus-Christ, le Fils. Nous te remercions pour cet enseignement auquel nous pouvons nous fier. Et de nous, Seigneur, par ton esprit, à reconnaître toujours la vérité et à enseigner toujours la vérité de ta parole. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de celui qui nous a envoyés. Au nom de Jésus. Amen.